Bonheur. Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
The White House confirms the United States is now set to impose a 104% tariff against Chinese goods.
Les enjeux qui te concernent.
Taxe au chat, c'est la bullshit.
On enlève ça?
On en parle plus tard.
Le but gagnant de la veille.
Cross-eyed Ovechkin fires! Score! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ça déboule les textos.
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec, mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes avec un invité de feu encore une fois ce soir que je te présente dans les prochaines secondes. C'est 2 degrés sur Québec actuellement, pour ce soir ce sera nuageux. On parle de neige entre 2 et 4 cm. La neige devrait se terminer vers les alentours de minuit, minimum de moins 8 pour ce qui est de ce soir et cette nuit. Mercredi, ce sera généralement ensoleillé pour demain avec un maximum de plus 1 degré. Jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 6. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 6 degrés. Mon invité de ce soir, c'est le chimiste. C'est un prof de chimie. C'est un vulgarisateur scientifique. Son nom, c'est Normand Voyer. Ça fait des années que je le reçois. Et encore une fois, ce soir, ça me fait un plaisir de vous le présenter. Pour les gens qui ne l'ont jamais rencontré et pour les gens qui aiment bien l'entendre à la radio. Donc, Normand sera avec moi dans les 10 prochaines secondes, aussitôt que le monsieur avec la grosse voix cesse de parler. Monsieur avec la grosse voix, c'est à vous.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir d'accueillir Normand Voyer dans les studios de podcast de Marceau, le soir. Salut, Normand.
Hey, bonjour, Yannick.
Normand, t'es un chimiste, t'es quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer il y a de ça quelques années dans une station de radio obscure de la ville de Québec. Et quelques années plus tard, je m'aperçois que t'as eu tout un parcours. T'étais prof à l'Université Laval pendant des années et des années.
Je suis prof à l'Université
Laval. T'es prof à l'Université Laval depuis des années et des années. T'es devenu un vulgarisateur scientifique hors pair à mes oreilles, à moi. Je sais pas toi comment tu le prends. T'as donné énormément de conférences à travers le Québec. Sérieusement, est-ce que tu pensais qu'un jour tu allais faire de la radio et de la télé?
Absolument pas.
Non?
Absolument pas. Puis c'est pas le genre de parcours qu'on s'entend quand on est un scientifique. Tu sais, quand on est un scientifique, ce qu'on veut, c'est faire de la recherche, faire avancer des connaissances, partager.
Les sujets sérieux.
Ça. Et faire de la vulgarisation, partager ma passion des sciences avec le grand public, puis particulièrement avec les jeunes, comme tu sais, je le fais beaucoup dans les écoles secondaires aussi. Ça m'a jamais passé à l'esprit. Jamais passé à l'esprit comme ça. Là. Ça vient, tout à coup, tu tombes un peu dans la potion. Il se passe des événements. Des fois, tu te fais inviter par des obscurs animateurs radio d'une obscure station qui travaille le soir jusqu'à 11 heures pour prendre des appels.
Ouais.
Tu sais, ce genre de choses-là, tu peux pas prévoir ça dans un plan de carrière.
Puis, t'étais pas un gars qui, j'imagine, se destinait à être un grand communicateur. Ce que tu voulais, c'est faire de la recherche. T'es chercheur depuis combien d'années? Qu'est-ce que ça prend pour être chercheur? Y a-t-il un cours, genre, je cherche? Bac en recherche.
Non, encore là, ça commence par une passion.
Ouais.
Tout commence par une passion. Moi, ma passion, là, je dis comment je me suis intéressé à la chimie, là. C'est que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup faire des expériences, expérimenter, puis avec des amis dont leur père était un ingénieur minier. On avait trouvé dans la revue Popular Mechanics, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh, Norm, tu viens de tomber dans quelque chose ». Dans Popular Mechanics, on avait trouvé la recette pour faire de la poudre à canon.
OK.
Tu ne savais pas que c'est facile à faire de la poudre à canon. Je ne donnerai pas la recette en onde aujourd'hui, mais on avait tout acheté ce qu'il fallait à la pharmacie.
Vous aviez quel âge à l'époque?
12 ans à peu près. Et puis là, on a fait la première poudre à canon qu'on a fait. On a mis le feu dedans. Ça fait, c'était vraiment le fun. Mais là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui arriverait si on mettait ça dans un pot fermé puis qu'on mettait un élément pour faire partir ça. Puis là, ça a fait un petit boom. Enfin, on était vraiment contents. Fait que là, on a commencé à faire des plus grosses bouteilles avec plus de ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça, c'est cool. On expérimentait à savoir si on met plus de tel ingrédient, etc. Ouais. Puis il y en a que ça sautait vraiment fort. T'es vraiment... C'est ça, je me suis dit, je vais être chimiste.
Fait que tes parents se disaient, OK, c'est soit qu'il va être chimiste ou soit qu'il va être terroriste. Là. On espère qu'il va être qu'il va être chimiste. Mais visiblement, c'est pas toi qui allumais la mèche. Là. T'as encore tous tes membres et tout ça. Là.
Ben ouais, je peux me compter chanceux. C'était moi qui allumais la mèche des fois aussi. Là, mais l'objectif, c'était vraiment de comprendre. Hey, c'était le fun de comprendre. Ce qui se passait. Mais tout ça, ça donne le goût. Puis par la suite, après ça, j'ai découvert ce que c'était les sciences. Et puis j'ai découvert tout ça, que j'aimais pas les mathématiques parce que j'ai poché mon cours au secondaire, j'ai poché mon cours au cégep. C'est fait que ça,
t'es un chimiste poche en maths, ça existe?
Oui, c'est ça. J'ai su que je serais pas mathématicien.
Ouais.
Puis la physique, quand mon prof m'a dit, écoute, quand je mets une échelle sur la maison pousse sur l'échelle, je me suis dit, je serais pas physicien. OK, ça, c'est une autre chose. Mais sérieusement, la chimie, ça permet de comprendre le monde qui nous entoure. C'est ça qui m'a appelé.
Puis t'as étudié en quoi pour être chimiste?
Bien, moi, j'ai fait mon cégep en sciences nature, bien ordinaire, là. Au cégep du Montréal, je suis vraiment content de le dire. Je suis vraiment fier de le dire. Par la suite, je suis venu à l'Université Laval. J'ai fait un bac en chimie à l'Université Laval. J'ai tellement aimé ça que j'ai fait mon doctorat. Et par la suite, bien, je suis allé compléter mes études à UCLA, à l'Université de Californie à Los Angeles, où j'ai fait un stage postdoctoral dans le laboratoire d'un éminent scientifique, qui a eu le prix Nobel, Donald Cram, en 1987. Et par la suite, ça m'a ouvert des portes. J'ai eu un offre. Je suis allé travailler chez DuPont, à la station de recherche expérimentale de DuPont, où là, le Teflon, le nylon, le spandex, le Kevlar ont été inventés.
Vous étudiez ça.
Fait que j'ai travaillé là pendant une couple d'années, mais il manquait quelque chose.
Puis c'était où, cette usine-là?
C'était à Wilmington, dans le Delaware, pour ceux qui connaissent un peu. C'est entre Montréal et la Floride.
Fait que t'es passé de la ville des Anges, Los Angeles, au Delaware.
Oui, Delaware, personne ne sait c'est quoi le Delaware.
J'ai passé devant, j'ai passé en moto dedans.
C'est ça, tout le monde. Ah oui, quand tu parles aux Américains, ils disent tout. Oh, I drove through. C'est à peu près juste ça. C'est un tout petit état, c'est pas plus petit, c'est Rhode Island, l'état de Washington, si on veut dire. Non, mais, et c'est là qu'il y avait le plus grand centre de recherche de chimie au monde, où il y a eu des découvertes extraordinaires. Là. D'ailleurs, quand j'étais là, ils développaient les disques CD. C'est DuPont qui a fait le plastique pour les disques compacts là, qui sont lus avec un lecteur laser. Là. Ils faisaient ça dans le temps. Parce que chez Bell Lab, il n'avait pas été capable de le faire. Personne n'était capable de le faire parce que le plastique finissait par rondir et puis ça ne marchait pas. Seulement chez DuPont, ils ont été capables de le découvrir.
Ouais. La chimie, ça touche absolument tout, normal.
Absolument, absolument. La chimie, là, ça explique le monde qui nous entoure. C'est pour ça, moi, que ça m'a fait triper. Quand je suis arrivé au cégep, mon prof, il a dit, regarde tout ce que tu vois autour de toi, là.
Ouais.
La chimie, ça explique ça. Particulièrement, il a dit le diamant puis le graphite, c'est la même chose. Puis moi, je lui disais, ben non, ça se peut pas. Il m'a dit, c'est juste le carbone. Ça dépend comment les atomes sont associés ensemble.
Ouais.
Puis notre corps humain, là, toi et moi, on est identiques. On est juste un gros tas de molécules.
Ben, je suis plus beau que toi.
Ben, ça, j'ai pas d'opinion là-dessus.
Mais dire qu'on est des gros tas de molécules, à un peu, là.
Non, mais c'est vrai, c'est qu'on est juste des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène, tout ensemble. La beauté, c'est dépendamment de ces atomes-là, comment ils sont arrangés ensemble, dépendamment de notre composition chimique, de notre génétique, bien, il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont les cheveux noirs, il y en a qui ont la peau brune, puis il y en a qui ont la peau blanche. Puis c'est vraiment là, captivant.
Puis il y a des raisons à ça.
Il y a des raisons. Puis quand tu es chimiste, tu essaies d'aider. Il y a des gens qui ont l'Alzheimer. Est-ce qu'on peut essayer de trouver pourquoi il y a des gens qui ont l'Alzheimer, puis pourquoi il y en a qui ne l'ont pas? Puis est-ce qu'on est capable de trouver un médicament pour ça?
Oui. Hey, j'ai le goût de te poser des questions. Souvent, dans Mars au soir, parce qu'on a quasiment une heure ensemble, je peux me permettre ce type de questions-là que je ne poserais pas normalement quand tu viens me voir dans mon show le jour. T'as-tu des croyances, toi? T'sais, qu'il existe quelque chose d'autre? Parce que quand je parle, la semaine passée, je parlais avec Mark Hamilton, qui est un microbiologiste, un gars que j'adore. Puis, on parlait de sa science à lui. Je parle avec toi, tu me parles de ta science à toi. T'sais, puis je me pose tout le temps des questions, mais c'est bien fait pareil, la vie en général. T'sais. Tous les éléments qui se sont là, qui se sont rassemblés, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Je me dis, tu sais, je crois en rien, moi, malheureusement, Normand, mais y a dû avoir quelque chose qui a créé tout ça.
Je crois en la chimie.
Toi, tu crois en la chimie. Mais tu poses-tu des questions par rapport à qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Ou tu es un peu comme moi?
Je ne me pose pas de questions comme ça. Pour que la vie existe comme on la connaît, nous autres, il y a peut-être d'autres formes de vie qui existent, mais pour que la vie existe comme on la connaît, là, c'est un concours de circonstances absolument incroyable sur des centaines de millions d'années. Oublie ça, là.
Parfaitement d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ce concours de circonstances-là?
Rien.
Il n'y avait rien.
Rien.
Ah, c'est que t'es plate.
Non, mais il n'y avait rien. Il y avait une planète. Il y a eu le Big Bang. Puis le Big Bang, ça a donné des amas de molécules, d'atomes qui ont fini par faire des molécules, qui ont fini par faire des planètes.
Fait que c'est l'évolution qui a fait en sorte que maintenant est arrivé puis on se ramasse dans un studio.
Ouais, je ne dirais pas avoir l'air plate. Il y en a qui pensent que c'est la création créationniste. Tu sais, c'est assez dur.
Parce que j'ai pas de...
Quand t'es scientifique, de pas croire à l'évolution. Ouais. Le darwinisme explique plein de choses. On comprend plein. Comment ça se fait? L'arbre de la vie.
Tout est mathématique, normalement. Tu sais. Il y a quelque chose de gros qui nous dépasse. Moi, ça, j'en suis persuadé.
Probablement.
Mais j'ai pas de religion. Fait que, tu sais, y a-tu
Moi, je suis pas contre les religions. Là. Je dis, si les gens veulent croire, c'est parfait pour eux autres. Là. Si ça leur permet d'avoir un but dans la vie, si ça leur permet d'être plus gentil, puis d'avoir plus d'empathie, puis ça leur permet d'avoir de suivre le cours de quelque chose, ben, tant mieux. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Moi, personnellement, j'ai pas ça.
La chimie travaille extrêmement fort à essayer de comprendre certains trucs, puis à essayer de modifier certains trucs qui vont être bons
pour les chimistes.
Pour l'être humain. Les chimistes travaillent extrêmement fort. Est-ce que, à ce jour, en 2025, tu sais, entre les gens qui veulent créer puis les autres qui essayent de faire en sorte que la Terre, que l'humain ne disparaisse pas, tu sais, je regarde tout le plastique qu'on retrouve dans l'eau, dans les océans. Moi, je suis un plongeur dans la vie, là. J'adore plonger. Tu sais, certains étés, j'ai eu la chance de faire le tour de certains lacs, puis on se promenait dans le fond du lac, puis on ramassait tous les contenants de plastique et tout ça. Puis après ça, on rassemblait ça, puis on essayait de ramasser une tonne. Tu sais, c'était notre objectif. Une tonne de déchets. Les chimistes travaillent-tu justement à essayer de trouver un moyen qu'on puisse mettre quelque chose dans l'océan qui va faire en sorte que ça va faire disparaître tous les contaminants éternels?
Ben oui, en fait, il faut comprendre une chose. Là, les chimistes, le monde pense que les chimistes, c'est des gens qui s'amusent à pitcher des plastiques puis des polluants dans l'univers. C'est l'inverse, là. T'sais, le plastique, c'est pas un problème. C'est pas le problème, c'est les humains qui utilisent le plastique.
Ouais.
Okay? Parce qu'on recycle seulement 10 % du plastique qu'on consomme.
Okay? Seulement 10
%? Seulement 10 %. Fait qu'imagine déjà, si on faisait à 50 %, ça aiderait déjà beaucoup.
Puis c'est-tu les pays industrialisés qui en utilisent le plus puis qui recyclent le moins?
Non, c'est tout le monde. Tout le monde sur la planète. Tout le plastique a rendu notre vie facile. Par exemple, des bouteilles d'eau. Avant qu'il n'y ait pas de bouteilles d'eau, qu'il n'y avait pas de plastique, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais à une fontaine. Mais là, c'est un qu'il y en a, t'achètes ça, puis c'est plus facile. Tu jettes ça. Tout le monde jette. C'est tout facile de jeter. On se fait la vie facile. On a pensé que ça allait disparaître. Si on trouvait un moyen pour recycler mieux, ça serait déjà ça. Puis deuxièmement, bien là, on surconsomme. Il y a bien trop de surconsommation, là, common. Tu sais, de l'eau là, du robinet est très, très bonne à boire. Tu n'as pas besoin d'acheter des bouteilles. Là. Je sais que c'est commode d'une bouteille, tu en mets une dans ton... Mais tu peux prendre une bouteille réutilisable. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis surtout, en ce moment, ce qui est vraiment cool, c'est comment les scientifiques travaillent justement à trouver des façons de décomposer le plastique pour qu'il soit réutilisable.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment une épopée là, qui va être... D'après moi, d'ici 25 ans, là, on va avoir des réacteurs, on va mettre des plastiques dedans, puis il va y avoir des micro-organismes qui vont manger le plastique, puis ils vont nous faire des produits de départ qu'on va pouvoir refaire d'autres, des biens qu'on a besoin au lieu d'aller sortir ça du pétrole.
Oui, mais il va falloir que ce soit dans un environnement contrôlé, parce que si ce produit-là qu'on va inventer s'en va dans des plans d'eau, ben, tout ce qui est en plastique va être désagrégé.
Bien sûr, bien sûr. Tu sais, il ne faut pas que la solution soit pire que le remède. Là.
Exact.
Il faut vraiment là, que... C'est ça, la solution? En tout cas, bref, tu as compris ce que je voulais dire. Puis ces solutions-là, les scientifiques, les chimistes, comme les biochimistes, les microbiologistes, on travaille tous à faire la même chose. Tous et toutes.
Les budgets sont-ils à peu près équilibrés, justement, pour essayer de trouver des trucs qui vont faire en sorte que ça va être positif pour l'environnement? Pour ce qui est de la recherche?
Bien, tu sais, on ne se le cachera pas, là, la façon que les budgets de recherche sont accordés. Le premier, c'est la santé.
Ouais.
Le premier, c'est la santé. C'est le plus gros budget de recherche. Après ça, tu as les sciences naturelles. Ça, c'est sciences naturelles et le génie. Puis après ça, tu as les sciences humaines, les sciences sociales. Et c'est peut-être pas une bonne idée parce que, dans le fond, là... Il n'y a pas tant de différence que ça entre les recherches médicales, les recherches de sciences nature puis les recherches de sciences humaines. Des fois, il y a des découvertes en sciences humaines qui vont permettre de sauver des tonnes d'argent. Il y a des découvertes qui se font avec des gens en sciences humaines, en sciences de la nature, en médecine en même temps. Par exemple, on travaille, un de nos projets, on travaille sur l'impact des changements climatiques sur les... médecine traditionnelle que les Premières Nations utilisent, que les Inuits utilisent. Et puis ça, bien, pour comprendre ça, il faut comprendre aussi comment ils l'utilisent. Et ça, c'est des gens des sciences sociales qui sont capables de faire ça. Moi, j'ai pas la patience de m'asseoir pendant 3 heures puis faire des entrevues puis essayer de comprendre ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la plante, qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est l'impact des changements climatiques. Puis est-ce qu'on peut prédire, est-ce qu'on peut aider ça? Puis il y a des gens qui travaillent en médecine là, des populations, puis qui aident à comprendre comment ils l'utilisent, puis comment ils devraient mieux l'utiliser, puis pourquoi qu'elle est plus toxique, puis comment ils peuvent faire pour mieux utiliser ces médecines traditionnelles-là. Fait que, tu sais, les sciences, c'est de plus en plus interrelié. Ouais.
Mais les médecines traditionnelles, c'est-tu un peu comme l'arrivée des premiers colons qui arrivaient ici avec le scorbut, qui ont été sauvés par les Amérindiens qui était ici?
Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, là, que c'est juste... Non, les médecines traditionnelles, là, c'est basé sur des milliers d'années d'observation.
Ouais.
Ça s'achète pas dans n'importe quel supermarché, là. C'est des milliers d'années d'observation. Puis il faut être capable de voir ça comme une richesse qu'on peut utiliser, puis qui sont complémentaires. C'est des données complémentaires aux données que nous, on est en train de créer.
En tant que chimiste, en tant que prof, justement, de chimie, t'es-tu tanné des fois de devoir remplir une multitude de papiers pour avoir accès à des subventions, pour pouvoir travailler sur quelque chose qui va être extrêmement positif pour l'être humain? Techniquement, on dirait que Tu sais, t'es obligé de te battre pour pouvoir travailler sur quelque chose qui va être utile à l'être humain. Il me semble que ça devrait pas être comme ça.
Ah, honnêtement, la réponse à ça, c'est un gros oui facile.
Ouais.
Parce que ça a déjà été bien plus simple. Maintenant, c'est tellement compliqué. Là, tellement... On appelle ça la reddition de compte. Là, puis... Écoute, souvent, là, je me dis, là, pour obtenir, pour avoir un bidule qu'on veut acheter pour le laboratoire, là, qui est essentiel, là, il faut... Ça coûte plus cher de toute la paperasse qu'on va faire, des gens qu'on va mobiliser, que d'acheter l'affaire. Ça, c'est vraiment incroyable.
Ouais.
La
machine vous retarde un peu.
Bien, la machine la retarde. C'est partout. Là. Il y a pas ça, des bonnes pratiques de gestion. Je veux bien comprendre ça. Je suis d'accord avec ça. Mais si je vais acheter un... Je vais donner un exemple. On a un appareil de résonance magnétique nucléaire qui nous sert à faire des analyses. Puis là, on a besoin... Là, on a eu... une subvention de 150 000 $ pour acheter une sonde qui va dans cet appareil-là. OK? Jusque-là, ça va?
OK. Oui.
Bien là, on ne peut pas l'acheter de notre fournisseur. Il faut qu'on fasse un appel d'offres. Parce que c'est en haut de 100 000, il faut faire un appel d'offres. Mais il y a juste une compagnie qui le fait sur la planète. Mais là, ça nous prend des soumissions de 3 soumissionnaires. Parce qu'on n'est pas conforme.
Mais il n'y a pas 3 soumissionnaires.
Il y en a juste un. OK? Fait que là, tu peux remplir le formulaire A22, OK, de 32 pages pour expliquer pourquoi que tu n'as pas d'autres soumissionnaires. Avant ça, on avait cette flexibilité-là dans l'administration qui disait, ils ont juste un jour parfait, tu l'achètes, c'est bon.
Avant, peut-être qu'on donnait la chance aux fonctionnaires d'être logiques. Là, aujourd'hui,
c'est pas
on
juste
dit, ne soyez pas logiques, essayez de remplir les cases qu'on vous demande de remplir. Ce qui fait en sorte que pour toi, qui trouve ça tout à fait logique de dire, ben non, je ne peux pas avoir 3 fournisseurs, il y en a juste un qui existe, ben l'autre de dire, oui, mais c'est parce que moi, je n'ai pas le choix. Là. Ça prend 3 cases à remplir.
Mais c'est vrai, dans tout l'appareil gouvernemental, il faut simplifier un peu ça, par exemple.
Mais ton appareil qui te coûte 150 000, en bout de ligne, va t'avoir coûté 225 000, 300 000 en temps.
Ça, le temps, les gens, ils ne le voient pas. Okay? Les gens qui travaillent, le temps qu'on perd... On parle beaucoup qu'au Canada, on n'est pas très efficace. Là.
Ouais.
Ça, c'est une des raisons. C'est une des raisons qui manque d'efficacité parce qu'on a un système dans lequel on a voulu être trop Transparent, je ne dis pas que c'est pas bon d'être transparent, mais il y a quand même des limites. Il ne faut pas exagérer. Il faut qu'on reste dans l'efficacité. Puis ça, souvent, c'est un petit peu plus difficile quand tu as des maintenant, là, de plus en plus, le système est fait pour qu'on ait des redditions de comptes, de la transparence, etc.
Normand Voyer, tu es un vulgarisateur scientifique. Tu es maintenant le directeur scientifique du Centre d'études nordiques. C'est quoi ce job-là?
La job ou le centre d'études nordiques?
Cette job-là?
Le centre d'études nordiques, c'est fondé en 1961. C'est le plus important regroupement de scientifiques au Québec qui travaille à faire avancer les connaissances dans le Nord. Et ça a été fondé par le géographe célèbre Louis-Edmond Hamelin. Et Louis-Edmond Hamelin, c'est le scientifique qui a eu, pour la première fois, l'idée de dire... Le Nord, il y a une des conséquences à la nordicité. Et il faut étudier ça. Et il n'a jamais été aussi clairvoyant que tous les scientifiques qu'on peut peut-être connaître. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, un, l'importance du Nord. Là. Si les gens n'avaient pas compris l'importance du Nord avec notre ami qui est maintenant président au Sud, lui, il a compris qu'il y avait plein de choses dans le Nord.
Il y a des ressources. Là.
Des ressources, il y a des minéraux, il y a du pétrole, mais il y a aussi la flore, de la faune, il y a toutes sortes de choses.
Il y a ce qu'on sait... Puis ce que je trouve encore plus intéressant, Normand, puis tu m'en as régulièrement parlé, il y a ce qu'on ne sait pas encore.
Absolument.
Avec la glace qui se retire, on découvre de nouveaux trucs qu'on ne savait pas qui existaient.
Elle ne se retire pas à fond, hein, tu sais, parce qu'il n'y a nulle part sur la planète que la température augmente plus rapidement, c'est au Nord. Donc, les changements climatiques, là, le réchauffement climatique, là, c'est observable à vue d'œil en 2 ans. Tu vas là-bas, tu te dis, oh, il y avait de la glace, s'il n'y en a plus. Oh, là, il y a des arbustes, il n'y en avait pas. C'est en 2 ans, tu peux voir la différence.
Mais parle-moi de mon jardin au Nord. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce jardin-là qui est en train de s'accroître? Qu'est-ce que, avec, les choses qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut faire avec?
On n'a même pas besoin de trouver puis de faire parce que le Nord est essentiel à l'écosystème de la planète. OK? Peut-être le monde me dit, ben oui, les gens, ça fond le Nord, là, puis les maisons vont tomber. Bon, oui, OK, il y a un problème avec ça, parce que quand ça fond, ben l'eau, elle s'en va quelque part. Et la glace est plus volumineuse que l'eau, fait que qu'est-ce qui se passe quand ça fond? Ben ça envoie de l'eau, puis là, ben il y a des petites îles dans le Pacifique qui commencent à être complètement submergées.
Les îles commencent à disparaître.
Tiens, ben une autre chose, quand ça fond au Nord, le monde dit, ben oui, ça fond au Nord. Non, non, quand le pergélisol fond, le sol qui était gelé pendant des millions d'années, là, quand il fond, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va avoir des micro-organismes là-dedans qui sont des méthanogènes qui produisent du méthane, des gaz à effet de serre 20 fois plus puissants que le dioxyde de carbone.
Oh, ça, on savait pas ça.
Je me trompe 12 fois. En tout cas, le méthane, c'est un gaz à effet de serre plus important, okay, que le CO2.
Le méthane, c'est les pets de vache, là.
C'est les pets de vache. Mais là, il y en a tellement que ça, ce que ça va faire, ça va juste amplifier cette boucle-là. Ça envoie plus de gaz à effet de serre, ce qui fait que ça va réchauffer encore plus, que ça va fondre, puis ça va se réchauffer encore plus. Qu'est-ce qui se passe dans le Nord a un impact global sur la planète. C'est pour ça qu'il faut comprendre le Nord. C'est pour ça qu'il faut aller étudier qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a besoin de scientifiques et de centres de recherche qui permettent, qui facilitent la recherche nordique. Et le Centre d'études nordiques, on a un réseau de stations de recherche jusqu'à l'île Bilo, ou ce que l'île Bilo en haut, là. C'est pas là que si tu veux aller sur une plage pour te baigner, c'est pas là.
Non, c'est un peu plus froid qu'à Olacher. Parce qu'au Orchard, quand j'allais là, quand j'étais jeune, j'avais l'impression d'être castré à chaque fois.
Non, c'est la même chose qu'au Orchard, mais l'hiver. Mais c'est ça. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'être capable, on a d'envoyer des scientifiques là, parce que ça prend une place pour rester, ça prend une place parce que t'es en plein milieu de nulle part. Et puis ça, c'est ça qu'on fournit. Le Centre d'études nordiques fournit des infrastructures pour faire ça. On a des stations de mesure environnementale. On mesure la température du sol, on a une 120, plus qu'une centaine d'appareils installés dans le Nord pour faire de la mesure environnementale.
Et fait qu'on t'envoie là. Un Normand Voyer peut aller là, dans une station comme ça, puis tu peux passer un certain temps à faire de la recherche à cet endroit-là.
Absolument. Ça s'en fait le travail de terrain. C'est ça qu'on fait. Mais non seulement Normand Voyer ou les membres du Centre d'études nordiques, mais on a de plus en plus de demandes de chercheurs, chercheuses européennes qui n'ont plus accès à la Sibérie depuis la guerre en Ukraine et donc ils viennent au Québec, au Nunavik, au Nunavut, avec le Centre d'études nordiques, pour venir faire leurs études.
C'est fascinant. T'es loin de ta femme. T'as-tu accès au game d'hockey?
Tu serais surpris maintenant. On ne l'avait pas avant, mais depuis que Starlink est arrivé, il y a quand même pas mal d'avancées.
Puis la faune là-bas, quand vous êtes dans ces stations-là, la faune, les ours polaires, ils peuvent venir vous voir.
Bien là, ça dépend où ce que t'es. Là. Ouais. C'est pas partout qu'il y a des ours polaires, mais oui, ils peuvent venir, c'est sûr. Là. Mais d'habitude, on est assez bien préparés pour ça. Ceux qui vont dans le nord, celles qui vont dans le nord, tu dois suivre ton cours de maniement d'armes. On a toujours des armes, on a toujours des... Quand on va sur le terrain, nous autres, parce qu'on va plus au Nunavik, là, à Miwok, à Wapmakchutu.
Ouais.
Quand on va là, ben, on a toujours notre petit bear spray, je ne sais pas comment on dit ça.
Poivre de Cayenne.
Un poivre de Cayenne, ouais, qu'on traîne comme ça. On est formé, on suit des cours comme ça.
Fait que t'es comme l'Indiana Jones du Grand Nord.
Non, pas à ce point-là, je dirais pas ça. On reste quand même... Il y a des gens qui restent là dans le Nord. Il y a des populations fantastiques qui nous apprennent des choses absolument incroyables. Ouais. Tu sais, comme tu leur demandes... Nous, on a de la misère à toffer les maringouins puis les mouches noires qui sont là-dedans. Puis là, je lui dis, ça te dérange pas? Quoi? Ben les mouches. Quelles mouches? Tu vois, ils ont des gens qui ils ont des trucs, ils s'habituent, ils savent comment vivre le Nord. Okay. Vivre le Nord, puis ça nous apprend plein de choses.
Puis qu'est-ce qu'il y a là-bas? Y a-tu des plantes qu'on utilise qui servent à faire des médicaments ici?
Non, il n'y en a pas. Puis l'objectif, c'est pas d'aller piller le Nord non plus, là. Mais le Nord, c'est un des écosystèmes très particuliers qui nous permet, par exemple... Nous, on est convaincus de ça, on l'a démontré, que les organismes vivants, comme les lichens, les micro-organismes, ouais, les champignons, les plantes, bien, à cause des stress environnementaux uniques dans le Nord, bien, ils font des produits naturels uniques pour se protéger de ces stress-là. Puis ça, on peut apprendre beaucoup. Ça peut nous aider à trouver éventuellement des pistes, par exemple, pour solutionner les grands problèmes. Je vais te donner un exemple. On a montré qu'un micro-champignon, OK, il y a un micro-champignon qui pousse dans les sédiments de la baie de Fundy, OK? Il vit dans le sédiment de la baie de... excuse-moi, j'ai dit Fundy. Frobisher, OK? On est à Iqaluit, là, on n'est pas au Nouveau-Brunswick, là, je suis désolé pour les auditeurs. Mais ça, imagine que ça, là, ce micro-champignon-là, il est inédit sur la planète.
OK.
Et il produit des substances naturelles inédites. Personne ne sait à quoi il savait. Bien, nous, on les a faites, puis on a démontré que ça pouvait neutraliser la malaria.
Oh, OK.
Tu sais, la malaria, là, c'est oui, la pire infection tropicale qu'on peut penser. Uh-huh. Bien, il y a un micro-champignon.
Cause de mortalité aussi assez grande.
Non, bien, maintenant, c'est mieux depuis qu'on a des nouveaux médicaments. Ouais. Il y a seulement 600 000 morts par année.
Seulement 600 000, ouais.
Non, mais il y a quand même 225 millions de personnes infectées par année.
OK. Puis ce champignon-là pourrait régler ça?
Bien, le champignon nous a donné l'idée qu'une substance que lui produit... Ce champignon-là, là, ces substances-là, on les a synthétisées dans notre labo, puis on a montré que non seulement ils étaient actifs contre la malaria, mais ils sont capables de neutraliser le parasite de la malaria qui est résistant à plusieurs des médicaments qu'on a aujourd'hui. T'imagines-tu, toi, le Nord peut donner une solution à un des pires infections tropicales sur la planète.
OK. Mais ça, là, bon, là, explique-moi un peu ton travail. Vous arrivez là, vous découvrez qu'il y a un champignon, vous le ramenez en laboratoire, vous l'observez. Après ça, vous prenez un extrait du produit que vous trouvez sur le champignon, puis vous amenez toutes les maladies de la Terre, puis vous mettez cet extrait-là sur toutes les maladies de la Terre. Comment ça fonctionne?
Bien, t'es vraiment bon. Yannick, depuis que tu me côtoies, là...
Oui, je m'améliore, hein?
Non, mais t'es devenu... ton esprit scientifique, ouais, s'est bien développé. C'est, félicitations.
Mais c'est pas pour rien que je fais de la radio, parce que quand on me voit, on s'attend pas à ce genre de phrase-là de ma part.
C'est pas ce que je voulais dire. Mais sérieusement, c'est un peu comme ça. Mais en fait, le travail, il se fait pas par une seule personne.
Okay? Ouais.
C'est un microbiologiste de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, Russell Kerr, là, pour le nommer, et son équipe, qui ont étudié puis ont trouvé le micro-champignon. C'est lui qui a fait ça. Okay. Il l'a cultivé dans son labo, puis il a dit au restant de la planète, voici, on a trouvé ce micro-champignon-là qui s'appelle Mortirella SP, puis il fait ces substances naturelles-là qu'on a cultivées, puis on n'a aucune idée à quoi ils servent.
OK.
Mais nous autres, dans notre labo, on a pu les synthétiser, puis on a pu les tester. Comment? parce que j'ai un collègue absolument fantastique qui s'appelle Dave Richard, qui est chercheur au Centre de recherche en infectiologie à l'Université Laval, qui, lui, là, il est toutes les bibittes que tu ne veux pas avoir sur la planète. Là,
il les a.
Il les a. Et puis là, j'ai dit...
Ça peut être stressant pour sa femme, là?
Je ne sais pas, mais j'ai dit, Dave, penses-tu que tu pourrais nous tester ça? Ben, Dave, parfait. Fait qu'avec Dominique Gagnon, là, son professionnel de recherche, on a testé ça pour la malaria. Puis c'est ça qu'on a démontré. C'est lui, ils ont fait ça. Fait que tu sais, tu peux pas tout faire toi-même.
Ouais.
Moi, là, moi, quand je vais dans son labo, je touche à rien, je veux rien, je veux pas en avoir, je veux pas voir la malaria, la tuberculose, la dengue, je veux pas voir ça. Eux autres sont capables de faire ça. Et c'est ça la richesse de faire ce qu'on appelle du travail interdisciplinaire. Et c'est là que tu peux faire des grandes découvertes.
Normand Voyer, chimiste, comment ça fonctionne quand vous faites ce type de découverte-là? T'sais, moi, j'aurais tendance, moi, je suis un chimiste. Là, je découvre que ce champignon-là qui produit cet extrait-là qui peut servir à faire un médicament, hey, j'en parle pas à personne. Moi, je prends ça, je garde ça pour moi, je pars une entreprise, puis là, je commence à faire ma petite crème ou mon petit vaccin. Puis après ça, je dis à la planète, savez-vous quoi? Je suis là, puis j'ai le vaccin pour contrer la malaria. C'est 25 cents de la shot, mettons.
Bien, mais t'as raison, ça en prend des gens qui font ça, puis c'est comme ça que les découvertes mènent à des produits sur le marché. Ça dépend. Mais ça, c'est des entrepreneurs qui font ça.
Ouais.
Nous, les scientifiques, la plupart du temps, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le découvrir puis de le faire connaître au reste de la planète. Fait, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Quand on a cette découverte-là, bien, on va écrire ce qu'on appelle une publication scientifique. Et là, on va la soumettre à un journal, une revue scientifique un peu partout dans le monde. Puis là, elle va être évaluée par des pairs. En général, c'est comme ça. La vraie science, ça se fait comme ça.
Par d'autres scientifiques.
D'autres scientifiques qui sont anonymes, qui vont regarder ce travail, qui vont dire, « Ah, ça, il y a une erreur là. Ça, tu aurais dû faire ci. Ça, c'est pas vrai parce que ça, là. Mais c'est pas mal bon. Okay, tu peux le publier, mais il faudrait que tu corriges. » Puis là, ça améliore ton travail. Puis là, tu le publies. Puis il y a des revues là qui sont de bas fond. Là, tu sais, des revues que personne ne lise.
C'est n'importe quoi.
Puis il y a des... super grosse revue, là. Nature, Science, The Lancet, là. T'sais, ça, c'est des plus grosses revues, là.
Donc, dans ces magazines-là, dans ces revues-là, Nature, entre autres, à chaque fois qu'il y a une étude qui est publiée, c'est parce qu'elle a passé le test des pairs.
Oh que oui, OK, oui. Puis c'est pire que ça pour Nature, parce que 75 à 80 de toutes les publications qui sont soumises à Nature sont même pas envoyés pour être évalués vers les pairs. Ils disent non, non, ça ne nous intéresse pas. Non, ça ne nous intéresse pas.
Parce que neutraliser la malaria, c'est quelque chose. Je pense, entre autres, sur le continent africain, puis en fait, partout sur la planète, il y a des gens qui sont atteints du sida. T'sais, un jour, on le découvrira, ce médicament-là qui
sida,
va...
c'est quand même servir. Assez bien contrôlé maintenant, grâce à toutes les avancées. Oui, grâce à toutes les avancées qu'on a faites.
Mais si un jour, sur un champignon obscur, on réussit à trouver quelque chose qui fait en sorte qu'on va être capable de le régler une bonne fois pour toutes, ce serait intéressant. C'est juste que je comprends pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chimiste, d'un côté, donne sa recette à tout le monde, puis de l'autre, le chimiste peut dire hey, « Moi, je viens de faire une découverte, là, je garde ça pour moi, je m'apporte une entreprise, merci, bonsoir, puis je commercialise
si
ça. »
Si tout le monde faisait ce que tu dis, la science n'avancerait pas. La science, ça avance par petits pas. Okay? Ça avance, on appelle ça, c'est des progrès itératifs. Okay? Moi, je découvre une petite affaire, puis je peux pas savoir l'impact de ce que je fais, je le publie, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, moi, là, j'avais justement besoin de ça. » Il fait avancer la science. On fait chacun avancer, toutes les personnes qui font de la science, là. Il y a des femmes puis il y a des hommes extraordinaires qui font de la science,
ouais.
Ils font avancer par petits pas en publiant leurs résultats. C'est très, très rare que les scientifiques vont breveter quelque chose. C'est très, très rare qu'un scientifique ou une scientifique va dire hey, « Moi, j'ai mis la main sur quelque chose, puis je vais le développer. » Sais-tu pourquoi? Ça prend 10 ans de développer ça, puis ça coûte des dizaines, puis des fois des centaines de millions de dollars. Puis je les ai pas, puis j'ai pas le temps de faire ça, puis ça m'intéresse pas. Donc, je suis allé en milieu académique parce que je veux faire avancer des connaissances, parce que je veux former les générations de scientifiques de demain, et je veux pas faire d'argent avec ça. C'est sûr que si je faisais des centaines de millions, je serais content. Mais c'est pas l'objectif de vie des scientifiques. C'est pas l'objectif de carrière des scientifiques. C'est vraiment de faire avancer les connaissances. Puis sais-tu quoi? Si je fais une découverte, puis je le publie, puis je fais pas d'argent, mais j'aide une compagnie, ça m'est arrivé dans un cas, à développer un médicament X, Y, Z pour une maladie que je connaissais même pas, bien, je me dis, j'ai fait ma job. Puis créer de la richesse, c'est quoi, Yannick? C'est-tu faire une découverte puis t'enrichir toi? Ou c'est plutôt de former 10, 15, 20, 50 personnes qui aujourd'hui travaillent dans la compagnie XYZW à protéger l'environnement du Québec, à s'assurer que les médicaments qu'on met sur le marché ont une innocuité, développer des nouveaux emballages biodégradables. C'est ça la richesse d'un Québec. C'est ça qui fait la richesse d'une société. C'est pas l'argent que toi, tu te mets dans tes poches.
Pas mal persuadé que les trois dernières minutes, les auditeurs qui sont dans leur voiture ont appris à découvrir qui était Normand Voyer. T'es un maudit bon gars, puis tu fais cette job-là pour les bonnes raisons, parce qu'il y en a énormément qui se disent « Oh, tabarouette, voilà une possibilité de m'enrichir, mais ce que vous voulez faire, toi et les autres chimistes comme toi et les autres scientifiques, c'est essayer de créer un avenir meilleur pour les générations qui s'en viennent, et ça, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup de le faire. Ça n'a pas toujours de l'air excitant, là, votre travail, bien honnêtement.
Oh, vous semblez
toujours être dans un laboratoire à pas jaser, parler en silence comme dans une bibliothèque, mais quand vous tombez sur des trucs qui sont franchement intéressants, ça doit être une belle victoire pour le laboratoire au complet, là.
Oui, une belle victoire. Puis c'est pas en restant dans ton laboratoire qu'il se passe quelque chose. Puis je sais pas combien de temps qu'on a, mais je peux te raconter ma dernière épopée là, que je trouve fantastique.
Vas-y, t'as du temps en masse. T'es dans Mars au soir, là.
Naturellement. On a fait une découverte. On a trouvé qu'une des médecines traditionnelles utilisées par les Inuits puis les Cris dans le Grand Nord,
ouais,
avait la possibilité de neutraliser la malaria. Alors, ça, on était content de ça, mais je sais pas si tu le sais, il n'y a pas beaucoup de cas de malaria dans le Grand Nord. Uh-huh. C'est une maladie tropicale. Par contre, il y a énormément d'infections parasitaires dans le Nord. Infection parasitaire, il y a plusieurs parasites, là, je t'en nomme juste deux, le Toxoplasmon gondii puis Trichinella, là, il y en a plein d'autres. Là. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des viandes crues, parce qu'ils mangent toutes sortes de poissons qui peuvent être parasités, etc. Fait qu'il y a plein de problèmes de santé d'infections parasitaires.
Parce que ça passe de la, pardonne-moi l'expression, mais de la bébite à l'homme?
Ben oui, ça passe de la bébite à l'homme, bien sûr. Ça veut dire zoonose. Ça a commencé là, ça est venu de l'Amérique du Sud. Toxoplasmon, il est venu de l'Amérique du Sud. C'est un, comment je pourrais dire, un concours de circonstances qui fait que quelqu'un est infecté, un animal est infecté, il l'amène,
ouais,
tu manges l'animal, etc. Puis ça finit chez l'humain. Alors donc, mais là, on s'est dit, bien, on va tester notre médecine traditionnelle pour voir si ça neutralise les parasites qui infectent les Inuits. Bien, devine quoi? Il n'y a personne au Canada qui travaille là-dessus. Mais absolument personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça de monde, il n'y a pas d'argent, personne ne travaille là-dessus. Fait que je n'ai pas trouvé personne, moi et mes collègues, on voulait trouver quelqu'un pour tester cette médecine, ces molécules-là qu'on a trouvées là-dedans pour ce parasite-là, OK, ces parasites-là. Fait que j'étais en année d'études et de recherche, j'étais en Europe, j'étais invité à faire plusieurs conférences, puis j'étais allé faire une conférence à l'Université de Strasbourg. Je fais ma conférence, je présente toute l'histoire comme ça, et puis à la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis il dit, moi, je sais qui peut tester ça. Il y a tel professeur à l'Université de Grenoble, c'est sa job, il fait ça. J'ai fait mon stage postdoctoral dans ce labo-là. La semaine d'après, je parlais en Zoom avec ce prof-là, puis on va avoir un projet conjoint, on va pouvoir tester nos molécules enfin là-dessus. Tu vois, c'est comme ça. Si tu ne vas pas à l'extérieur, si tu ne rencontres pas du monde, si tu ne présentes pas tes travaux, puis tu gardes tout pour toi parce que tu veux faire un brevet, là, bien, ça ne fait pas avancer la science.
Le financement de la recherche, c'est vraiment l'argent du gouvernement qui vous permet de faire progresser cette recherche-là?
En grande majorité, surtout la recherche fondamentale. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de recherche. Okay? La recherche fondamentale, c'est pour essayer de comprendre fondamentalement ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive quand ça réchauffe le sol, etc.? Qu'est-ce qui arrive aux micro-organismes quand le pergélisol... Déjà, là, okay, je te donne un exemple. Pourquoi telle protéine est impliquée dans le cancer? On ne sait pas pourquoi. T'sais, tu vois, ça, c'est fondamental. Mais il y a aussi de la recherche qui est très appliquée. Est-ce que je peux trouver un moyen pour extraire le lithium, okay, du minerai qu'on a ici, le spodumène, d'une façon écologique? Okay. Tu vois, ça, c'est des recherches plus appliquées. Comment je fais ça, une recherche appliquée? Je suis capable de le faire, mais je veux juste l'améliorer. Puis ça, les compagnies n'ont pas le temps de faire ça. Puis ça, c'est là qu'il y a des scientifiques dans les universités qui peuvent faire ça. Là. Puis ça, c'est de la recherche appliquée. Ça, c'est de la recherche qui vient généralement du gouvernement. Pour faire de la recherche fondamentale, c'est juste du gouvernement. appliqué. Des fois, c'est gouvernemental, des fois, c'est industriel. Des fois, c'est un mélange des deux.
Oui, là, je veux que tu me coupes si ce que je te dis là, ça n'a pas rapport, mais des fois, j'ai des souvenirs qui s'entremêlent. Est-ce qu'il y a des entreprises privées qui réussissent à subventionner des chaires de recherche pour vous aider? Oui, hein, ça existe
absolument,
encore.
Absolument, parce que je vais te donner un exemple.
Je me disais qu'un jour, ça pouvait peut-être avoir été enlevé parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais là, s'il y a des professeurs chimistes qui travaillent avec des étudiants puis qui sont subventionnés par le privé, Des fois, ça peut être un peu particulier. C'est toujours délicat.
Par contre, il y a des grandes compagnies.
Pfizer,
qui,
entre autres.
Oui, ben, je vais te donner un exemple. Domaine minier. Moi, je suis une compagnie minière, puis on a des ressources, mais on n'a pas le savoir-faire, okay, pour développer un procédé vert pour extraire l'or d'un minerai. Okay? Puis, fait que là, je préfère dire, hey, j'ai besoin de main-d'œuvre spécialisée. Okay? Moi, je suis une entreprise. J'ai besoin de main-d'œuvre spécialisée. Fait qu'au lieu de payer pour faire ça, je vais donner de l'argent à un chercheur pour qu'il crée une chaire de recherche, une chaire de recherche industrielle dans le domaine XYZ. Puis je disais à cette personne-là, moi, là, j'ai pas besoin que tu me donnes des affaires. Je veux juste que tu formes, que tu fasses de la recherche de pointe puis que tu formes des bonnes personnes parce que moi, à la base, je vais avoir besoin de ces personnes-là. Donc, il y a des façons de faire et c'est tout à fait bien encadré. Puis quand c'est bien encadré, puis c'est bien fait, puis c'est bien déterminé, c'est bon. Ça va bien. Ça, là.
Tant qu'il y a de l'éthique.
Exactement. Mais là où ça peut devenir dangereux, c'est quand tu fais de la recherche, tu as une chaire de recherche d'une compagnie, mais il faut que tu développes ce que la compagnie a fait, puis que ça, c'est des secrets industriels, puis là, tes étudiants ne peuvent plus publier. Toi, tu ne peux pas publier. Ils ne peuvent pas écrire leur thèse. Leur thèse doit faire. Là, ça commence à causer des problèmes. Là, ça cause des problèmes. Puis c'est pas impossible, mais là, il y a du sable dans l'engrenage un peu. Puis ça, des fois, il y a des missions compatibles, puis il y a des missions qui sont incompatibles avec la formation des scientifiques, avec l'avancée des connaissances, etc. Fait que il y a des chaires qui existent qui sont tout à fait libres. C'est une chaire qui est donnée par une fondation, que ce soit une compagnie X, Y ou Z qui donne des sous et qui dit, nous, c'est juste parce qu'on veut encourager la recherche de ce domaine-là, puis on n'a pas d'intérêt, on donne ça. En anglais, on dit « no strings attached », avec aucun lien d'attache, tu fais ce que tu veux.
Ça, c'est les meilleurs. Ça.
C'est les meilleurs. Ben oui, c'est les meilleurs, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de limite, il faut comprendre que nous, là, on a une des missions, c'est de former les scientifiques, les ingénieurs, les sociologues du futur. Okay? Si tu ne peux pas graduer parce que tu ne peux pas faire ta thèse de doctorat, ben non, là, ça devient incompatible avec ce qu'on essaie de faire.
Je comprends. L'industrie pharmaceutique aussi fait énormément de recherches là, pharmaceutiques, mais au niveau des cosmétiques.
Ah, oh, c'est vraiment... L'Oréal a des chaires de recherche partout sur la planète.
C'est 2025, là.
Ah oui, oui. Mais en fait, il faut comprendre, la cosmétique, ça n'existe presque plus. Là. La cosmétique, comme on la connaît, là, faire des putain, je vais dire ça comme ça, là, faire des blushs, faire des fards, puis faire des... toutes les cosmétiques comme ça, ça, c'est déjà connu. Là, on n'a pas de problème. Ce qui est à la mode, la cosmétique n'existe plus. C'est la cosméceutique, c'est-à-dire...
La cosméceutique, j'aime ça.
C'est vraiment devenu une science où tu dois avoir une approche équitable, c'est-à-dire t'approvisionner dans des pays qui sont avec une approche équitable. Tu dois avoir une approche durable. Tu dois avoir des cosmétiques naturels et tu dois prouver tes allégations. C'est comme des médicaments. Donc, il fait des tests bio. Tu as des tests pour t'assurer, des tests cliniques, t'assurer de la validité de ce que tu affirmes, mais tu n'as pas le fardeau des tests pharmaceutiques. Ce n'est pas un médicament. C'est entre le cosmétique et le médicament.
Puis, mais quand il y a des suspects de sacoche chez vous à la maison, là, puis les filles parlent de leurs produits, là, ils doivent, ta femme doit te dire, Normand, va te prendre une marche. Là. Tu vas perdre connaissance. Là.
Non.
Prends ça, là, ça rajeunit, ça, là.
Ah, ben non, mais ça, t'as pas besoin de prendre ça. T'as juste à regarder n'importe quelle émission maintenant. On peut plus se passer de la publicité. Il y a de la publicité partout, là, même, ouais, même sur le web, même sur Netflix, n'importe quelle plateforme. Puis, tu sais, c'est toujours de la haute technologie, oui, je trouve, des choses comme ça. Mais
le marketing, il est très fort. Là, bien souvent, ils vont mettre un sarrau à la personne qui parle du produit.
Tout le temps.
Pour donner comme une impression que cette personne-là a fait de hautes, ah, oui, études.
Puis t'as toujours des molécules d'ADN qui tournent en arrière, même s'il n'y a pas d'ADN dans l'affaire. Là, mais il y a toujours ça, ça paraît toujours bien comme ça. Oui, on joue beaucoup là-dessus, mais la science est maintenant partie intégrale du développement de la cosméceutique. On ne peut pas faire des nouveaux produits, on ne peut pas mettre sur le marché des choses sans avoir des preuves d'allégation. Tu, ouais, peux plus faire ça, parce que sinon, là, avant ça, tu disais n'importe quoi, là, mais le milieu, c'est auto-régulé, mais les gouvernements ont aussi mis des normes très importantes qui permettent maintenant de s'assurer que quand tu fais des claims, j'essaie de trouver des allégations, voilà, c'est ça, des allégations d'action, bien, il faut taille des preuves cliniques qui montrent, scientifiques, tout ça. Puis je te dirais que les compagnies, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là. La science là-dedans, là, c'est fou. Là. Il y a des centres de recherche cosméceutiques là, chez L'Oréal, là, où il y a plus de budget de recherche là, qu'il y en a à l'Université Laval.
Ouais, des fois, c'est hallucinant de voir à quel point les produits de beauté pour les femmes... Bon, on prend des actrices d'Hollywood. Là, je ne sais pas si tu as vu Demi Moore dernièrement, mais c'est une beauté incroyable. Puis elle approche 60 ans. Tu sais. Puis là, on prend Demi Moore, qui a été peut-être travaillée un peu dans les dernières,
ouais,
années
ça,
par des spécialistes. Puis là, on dit, voici cette crème-là qui a aidé Demi Moore à rester jeune toute sa vie. Tu sais. Puis là, les filles embarquent là-dedans. Colin qui dépense l'argent.
Ben ça, je trouve ça quand même correct. Mais moi, c'est quand on dit aux fillettes de 12, 13 ans, aux ados, faut que tu aies ta routine beauté, faut que tu dépenses 3, 4, 500 piastres.
Ça commence jeune.
Ça, c'est faux, là. Bien s'occuper de sa peau, bien la nettoyer, c'est bon, là. Mais te faire croire qu'il faut que tu mettes 500 piastres dans ta routine beauté, là, quand t'as 13 ans, là, pour ça, là, c'est un arnaque, ça, là. Là. Bien, ouais, nettoyer, puis une crème hydratante d'attitude, c'est bien aussi, là. Tu sais, faut pas faire ça. Puis si, j'ai un conseil, là, si vous voulez économiser, là, je vais juste dire ça. Saviez-vous, là, que le vieillissement accéléré de la peau, là?
Ouais.
OK? C'est le vieillissement accéléré de la peau, c'est 70 à 75 % dû aux rayons du soleil. Fait que la meilleure crème anti-rides que tu peux avoir, c'est une crème de protection solaire.
Fait que l'été, tu te promènes avec ton petit parapluie, Normand?
Non. Pas tout. Je m'assume.
D'accord, Lynn, je trouvais que tu avais une belle peau. Je rappelle aux auditeurs que j'étais avec Normand Voyer. C'est un vulgarisateur scientifique. C'est un prof à l'université aussi. Et tu es directeur...
Du Centre d'études nordiques.
Du Centre d'études nordiques. Tu restes-tu encore avec moi quelques minutes?
Bien sûr.
Il reste encore plein de questions à te poser.
Ça me fait plaisir.
On fait une courte pause et on vient tout de suite avec Normand Voyer.
Marceau, le soir. Le soir. Tous les vendredis, dans Gravel dans le retour, on a l'immense privilège de recevoir Pierre Houde. Un vrai couteau suisse, parce que oui, vous le connaissez pour le hockey puis la F1, mais il peut aussi vous parler musique, bonne bouffe et vin. Il peut même devenir votre conseiller voyage.
Mais ça a l'air le fun à Salt Lake City.
Il avait l'air d'avoir de l'ambiance.
C'est quoi? Tu sais, on dit keep Austin weird,
oui.
keep Salt Lake weird, mais de la bonne façon, je le dis avec affection, mais c'est tellement cool. J'ai jamais vu autant de barbe à la ZZ Top, Denis. Je te jure, il y en avait 3-4 par restaurant.
Pierre Houde, votre incontournable du vendredi.
Si je dis le plus vieux stade de baseball en Amérique du Nord, Aerosmith, le but gagnant de McDavid pour le Canada, et Harvard.
Austin, baby!
Oh yeah! C'est le grand retour du Rock'n'Ball!
Pis cette année, ça se passe à Boston.
Right. Tu pourrais gagner tes billets pour le show de Linkin Park avant leur passage au Canada et pour voir les Red Sox au mythique Fenway Park en août prochain.
Je te dis ça de même, là, mais regarde dans ta poche en arrière. Il y a 500 piastres d'argent inclus, puis on a même pensé à ton transport puis ton hébergement avec un crédit voyage.
Hey, une virée à Boston sur le bras de Dernay, c'est juste parfait.
Reste à l'écoute. Quand t'entends une toune de Linkin Park, note l'heure pour l'inscrire au blvd.fr.
Parce qu'on sait jamais, in the end, tu vas peut-être te retrouver à Boston grâce à Boulevard 102.1, Nokian Tires et Dernay Pneus et Mécaniques.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement l'animalerie pour adultes 8 morceaux, servi avec tous les accompagnements à seulement 9,95 $ au comptoir et service à l'auto.
Adoptez le Volkswagen ID.4 2024 100% électrique qui vous offre espace, confort et technologie. En avril, chez Volkswagen Saint-Nicolas, obtenez jusqu'à 15 000 $ de rabais, incluant le programme Roulez vert et un financement à 0% jusqu'à 72 mois sur certains modèles. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. L'équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance, de travailleurs sociaux et plus pour veiller au bien-être des résidents. En collaboration avec des employés du réseau de la santé et des services sociaux, Hébergement Rive-Nord participe à l'amélioration de la qualité de vie de sa clientèle avec professionnalisme et bienveillance. Pour plus de détails, visitez hébergementrivenord.com.
Besoin de faire installer une fosse septique? Faites affaire avec de vrais pros. Chez Dexco Excavation, on en maîtrise l'installation sur le bout des doigts. Résidentiel, commercial, raccordement aux services municipaux, on s'adapte à votre situation pour des travaux durables et conformes aux normes. Accrédité pour tous les systèmes du marché et pour les subventions de la Ville de Québec, nous livrons qualité et expertise à prix compétitif. Dexco Excavation, plus de 20 ans d'expérience. Dexcoexcavation.com.
Hey, je sais pas toi, mais ça me tente tellement pas de faire la cuisine à soir.
M'en occupe!
BMR, pour les vrais.
Hey, semble qu'on serait dû pour se faire un petit chalet.
Ben parfait, je commande les 2x4!
BMR, pour les vrais.
Pourquoi ne pas vous organiser une petite escapade romantique? Pas besoin d'aller loin, car l'Hôtel Champlain dans le Vieux-Québec est juste parfait. Mercado.fm vous propose un forfait gastronomie et hôtel au cœur du Vieux-Québec, comprenant une nuitée en chambre supérieure pour deux personnes à l'Hôtel Champlain, incluant le petit déjeuner et un certificat cadeau de 100 $ au Bistrot L'Atelier ou au restaurant Ophélia, le tout pour seulement 199 $. L'Hôtel Champlain, un bâtiment historique alliant confort et modernité, parfait pour s'y retrouver à deux. Offre limitée, valide jusqu'au 30 avril au Mercado.fm.
Chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi, c'est l'occasion à ne pas manquer. Offrez-vous l'Eclipse Cross ES 2025 à traction intégrale en location 36 mois pour seulement 178 $ aux deux semaines à un taux d'intérêt de 3,99%. Avec 16 000 km par année et 1 500 $ d'acompte. En prime, bénéficiez d'un plan d'entretien prépayé de 2 ans sans frais. Ne manquez pas cette offre unique chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi au 1000 boulevard Pierre-Bertrand ou au 2830 rue Einstein.
Dans un monde rempli d'écrans, d'horaires et de selfies, vos yeux méritent un peu d'attention. À quand remonte la dernière fois que vous leur avez accordé l'attention dont ils ont besoin? Chez Iris, nous comprenons l'importance d'une vision claire. Nos optométristes offrent des examens de la vue complets pour assurer la santé de vos yeux. Ne perdez pas de temps. Visitez iris.ca pour planifier votre examen de la vue dès aujourd'hui. Iris, vision d'exception, style remarquable. Docteur Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Bonjour, c'est Cécile des Cliniques Viva. Vous nous l'avez demandé, on vous a écouté, c'est le grand retour de la carte cadeau 125 $. Pour la recevoir, c'est hyper simple. Planifiez une consultation sans frais dans l'une de nos 6 succursales, peu importe le traitement qui vous intéresse. Direction cliniqueviva.com.
Les huîtres fraîches et les ailes de poulet fumées maison sont à seulement 1 $ tous les jeudis au Phoenix. Venez vous gâter et profitez de nos 4 différentes ambiances pour le reste de la soirée. Réservation phoenixduparvis.com.
Être connecté à tout et branché aux atouts, le quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. Borne de recharge, aire de travail équipée, resto café et bus à ma portée. Le quartier Mosaïque offre des condos locatifs branchés au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Faire mes courses à pied, puis ma marche à pied. Quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. À deux pas des galeries de la capitale et d'un immense boisé, le quartier Mosaïque offre de superbes condos locatifs au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Salut Nissan!
Ah, Karine, petit jeu pour toi. Nomme-moi les différences entre le Kicks Play et le tout nouveau Kicks.
OK, le Kicks Play reste toujours un VUS compact, mais le tout nouveau Kicks est redessiné en plus d'avoir la traction intégrale en option.
Mais tu connais bien tes Kicks, Karine?
Ouais, hein? Mais sais-tu ce qu'ils ont en commun?
Les deux profitent des offres de l'événement Décidé et Roulé.
C'est en plein ça?
Louez un tout nouveau Nissan Kicks sélectionné et choisissez entre un boni ou un crédit accessoire allant jusqu'à 1 200 $ ou 3 ans d'entretien prépayé. Jusqu'au 30 avril, sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Boulevard 102.1. La radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais sans t'espionner.
Et que je sais plus quoi cuisiner. Qu'est-ce qu'on mangerait à soir?
OK, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, celui qui m'envoie la meilleure joke risque de gagner une carte cadeau. Tiens, la poutine pour toute la famille.
As-tu pensé à ce que tu voulais regarder à soir à la télé? Puis ça me tente pas de passer ma soirée à checker des previews sur Netflix.
Hey, je vous ai préparé une liste de 2-3 séries, 6 épisodes, c'est closé, c'est fini.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Normand Voyer, chimiste, vulgarisateur scientifique, est avec nous encore pour quelques minutes pendant la pause. Tu m'as dit, Yann, ça fait combien de temps qu'on fait de la radio? 10 ans? Ça fait déjà 10 ans? Ah ben ouais, le temps passe vite. Hein?
Eh oui, puis je me souviens, la première chronique qu'on avait faite, c'était sur le cannabis.
Oui, on avait parlé de ça parce que le gouvernement parlait de rendre légal la vente de marijuana, voulait un peu s'en occuper. Bon, c'est arrivé avec les SQDC, puis on avait fait une chronique au complet sur le cannabis. Tu as plein de belles conférences que tu donnes dans les écoles, dans les entreprises et tout ça depuis plusieurs années. On te voit passer une fois de temps en temps à « Salut, bonjour ». On t'entend à Radio-Canada aussi une fois de temps en temps. T'es en demande partout. Tout le monde veut sa petite portion de Normand Voyer. C'est le fun, puis tu contribues justement à faire connaître la chimie. T'es un bel ambassadeur. Pas ta face, là, mais la personne.
Non, j'aime ça être beau comme toi, puis d'être jeune comme toi. Non, mais...
J'ai commencé ma routine beauté à 13 ans.
C'est bon. Ça paraît.
Ouais, ça paraît. La chimie de l'amour, tu t'es penché là-dessus?
Oui, la chimie de l'amour, là, c'est vraiment encore... C'est la conférence que je fais le plus. Là. Je vais bientôt taper le 400 conférences de la chimie de l'amour. 400 représentations de cette conférence-là qui permet de parler de différentes choses, de parler de la contraception, parler de toutes sortes de sujets qui touchent à l'amour, qui relient à l'amour, même les drogues. Okay? Est-ce que l'ecstasy, c'est la drogue de l'amour? Donc, tu peux toucher à plusieurs de sujets, juste de façon comme ça. Puis c'est amusant. C'est amusant parce que tout le monde dit, ben voyons donc, il n'y a pas de chimie. Non, il y a de la chimie partout.
Il y a de la chimie partout. À un moment donné, tu nous avais fait une chronique sur le chocolat.
Chocolat noir. Tu t'en es souvenu comme ça. Mais aussi, tu sais, par exemple, juste une chronique sur l'alcool. Si tu savais, tu sais, l'alcool, tout le monde connaît ça, tout le monde a pris, tout le monde sait qu'est-ce que ça fait, mais personne qui sait pourquoi ça saoule, l'alcool. Puis toutes les légendes urbaines qui touchent à l'alcool. Puis pourquoi l'alcool, c'est un problème beaucoup plus grave dans notre société que le cannabis. Ça, il faut en parler. Puis parler des drogues, puis il faut en parler, pas...
Tu m'avais posé une colle, je m'en souviens encore.
C'était quoi?
La question, puis écoute, je n'avais jamais entendu parler de ça. Entre un verre de vin blanc puis un verre de champagne, qu'est-ce qui nous enivre plus rapidement ou qu'est-ce qui nous saoule plus rapidement? Puis moi, je t'avais dit, c'est la même chose. Je veux dire, il faut juste qu'il y ait la même quantité d'alcool dans les deux. Puis tu m'avais dit non, puis tu m'avais expliqué pourquoi. En raison des bulles.
En raison des bulles, exactement. Parce que dans le champagne, il y a des microbulles. Puis les microbulles facilitent le passage de l'alcool dans le sang. Fait que pour la même quantité d'alcool que tu bois, ton taux d'alcool sanguin va augmenter plus vite avec le champagne. Fait que s'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent puis disent... Ah, c'est à cause de ça que... Ah oui, c'est ça, c'est juste les bulles.
Ouais. C'est la même affaire pour le mousseux, j'imagine?
Oui, même chose pour le mousseux. En fait, tout ce qui est pétillant, tout ce qui contient des bulles de CO2, parce que les bulles de CO2, c'est un peu graisseux, OK, au point de vue de fois, puis ça facilite le passage de l'alcool dans les membranes, puis donc ça va plus vite dans notre sang.
Question niaiseuse. J'ai pas tes connaissances, fait que j'ai le droit de poser des questions niaiseuses.
Il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des questions qu'on ne connaît pas les réponses.
Mettons dans le Perrier, mettons que je bois de l'eau Perrier, suis-tu plus hydraté rapidement en raison de l'eau Perrier ou ça m'aide à gérer plus?
Ça peut-être, là, il y a des gens parce que tu as du gaz, puis il faut que tu... laisse le gaz s'échapper, là. Ça peut permettre d'avoir des roues plus souvent. Mais est-ce que ça hydrate plus? Ben non. l'eau, c'est de l'eau. Tu sais, il y a plein de TikTok, là, du raw water, de l'eau hydratante. Oubliez ça, là, tu sais, cette affaire-là. C'est fun de déboulonner toutes ces choses-là. Puis j'aime ça. Je peux même, là, j'aimerais juste proposer, s'il y a des auditeurs qui voudraient faire une séance dans un bar un soir, un bar des sciences, ouais. On se pose des questions, puis on déboulonne des
le
mythes.
Le bar des sciences.
On fait un bar des sciences, puis on déboulonne des mythes, là. Par exemple, c'est-tu vrai que quand je bois 3 cafés noirs, je dégrise plus vite?
C'est-tu vrai?
Non.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Est-ce que quand je
la
bois...
La bière
quand
du lendemain.
Je prends un verre. Mettons, je sais pas. Moi, j'ai pris... Là, il faut que je fasse attention, j'ai des chums qui écoutent. Là, fait qu'il va falloir que je mente, sinon ils vont m'écœurer. Mais mettons que je prends 4-5 verres d'alcool fort. Si je prends... Bon, je vais nommer des restaurants. Si je prends du McDo ou encore du IW, avec des frites, avec un peu de gras, ça peut-tu m'aider à peut-être mieux filer le lendemain? Ou si je déjeune avec, mettons, du bacon, là, puis quelque chose d'assez gras, ça m'aide-tu?
Ben, écoute, l'effet est vraiment minime, OK? L'effet est vraiment minime. L'alcool, là, quand il est rentré dans ton corps, là, c'est pas parce qu'il dit « Oh, Yannick vient de manger une poutine à X, puis donc je vais aller sortir de ton corps. » Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, quand il est dans ton corps, c'est un métabolisme, c'est bien connu, c'est étudié, puis c'est pas parce que tu vas courir, puis tu vas marcher autour de la maison, puis il fait moins 30 que tu dégrises plus vite. L'alcool, là. C'est le temps qui fait disparaître ça. C'est pas parce que toi, t'as envie de dégriser que ça dégrise plus vite.